Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Fabriqué par Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. En ces temps d'incertitude, il est bon de pouvoir se raccrocher à quelques valeurs sûres. Par exemple, le fait que, pandémie ou pas, la fin des vacances scolaires soit synonyme de la ressortie du placard du fantasme tenace et ancestral que les personnes bénéficiant de l'allocation de rentrée s'en servent, non pas pour acquérir des cahiers et autres fournitures scolaires pour leurs bambins, mais bien pour se payer des écrans plats, des chaussures de marque et des téléphones dernier cri. Outre le fait que cette affirmation soit à peu près aussi fausse que stupide, elle est surtout l'illustration de l'impossibilité de se débarrasser de l'idée reçue selon laquelle les pauvres, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont incapables de gérer un budget. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'ils sont pauvres, parce que sinon, eh ben, ils seraient riches, c'est évident. Plus globalement, ça devrait nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on, en tant que société, déteste les pauvres ? C'est la question qui est au cœur de nos 3 prochains épisodes, signés Maëlle Diallo et Solène Moulin, 3 épisodes qui forment une série qu'on a baptisée « Salaud de pauvre ». Bienvenue dans Programme B.
J'ai grandi seule, avec ma mère. Elle est enseignante et gagne un bon salaire, assez pour qu'on n'ait jamais manqué de rien. On avait une jolie maison, on faisait les courses au supermarché Discount pour faire des économies, et je faisais du sport après l'école. Une vie de classe moyenne, tout à fait classique. Bon, après, même si on n'était pas précaires, on pouvait pas tout se permettre, et je me rappelle que j'avais honte de mes biscuits Discount et de mes vêtements de seconde main à l'école. Je voulais pas qu'on me prenne pour une pauvre. En fait, ce sentiment que j'avais de ne pas vouloir être pauvre et la manière dont on traitait les enfants précaires quand j'étais petite, c'est assez représentatif de la société française. Dans notre pays, on a construit tout un système visant à discriminer les personnes en situation de grande précarité et ça commence dès l'enfance, avec les préjugés qu'on récupère de nos parents et qu'on répète à l'école. Puis ça remonte jusque dans les sphères politiques et économiques où on entend que si les pauvres sont pauvres, c'est pas de la faute du système, mais dès le même. Et malgré les fins de mois difficiles avec ma mère, j'ai appris récemment, en lisant des rapports de l'Observatoire des inégalités, que j'avais eu de la chance. Notre situation n'avait rien de banal. Parce qu'en fait, c'est rare, quand on est une femme seule avec des enfants à charge, de ne pas tomber dans la grande précarité. C'est en repensant à mon enfance que j'ai commencé à me poser la question qui sera le cœur de cette série. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en France en 2021 ? Pour discuter avec les personnes concernées, je suis allée un samedi matin à Pantin, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Là-bas, le Secours populaire organise des distributions alimentaires. Je me suis mêlée aux bénévoles. Et j'ai écouté les histoires des uns et des autres.
Bon alors, c'est parti, tout le monde est là ? On est chaud ?
Oui, on est chaud. Donc, merci à vous d'être venus. On a plein de jeunes qui viennent de nous donner un coup de main. Donc, Caroline, tu vas donner les informations sur la distribution qui est avec toi. Donc, les trois tuteurs, vous prenez un, deux, trois, chacun un, pour expliquer effectivement le fonctionnement sur les navettes, les choses à contrôler, l'heure, etc.
Il est 9h du matin, tout le monde s'active puis se regroupe autour de Marilène pour le brief. Chaque bénévole a un poste défini, que ce soit accueil, navette entre les réserves de nourriture et les bénéficiaires, préparation des paniers de courses, et puis il faut aussi former les petits nouveaux.
Et ensuite, là, tu vois, tu as des petites cases. Et donc, à chaque fois, tu arrives et tu te dis, donc, voilà, ils ont au choix entre du poisson, du poulet ou des steaks hachés. Donc, tu coches la case. Ensuite, c'est pareil, c'est, ils ont au choix entre des pâtes, du riz et du couscous. Donc, tu coches la case. Pareil pour petit pois haricots verts. Après, tu remplis ça. Et ensuite, après, tu vas récupérer l'argent parce qu'il y a une participation financière. Et cette participation, en gros, c'est de 2 euros si la personne est toute seule. C'est de 3 euros s'il y a 2 ou 3 personnes. Et à partir des 4 personnes, c'est 4 euros. Et voilà. Et après, du coup, tu verras, on ira là-bas pour ramener la commande, l'argent et donner le panier.
Ah, c'est ça.
Ouais, non, t'inquiète, faire un ou deux tours à blanc, ça se passera bien, je pense.
En essayant de parler aux bénéficiaires, deux choses sont revenues systématiquement. Personne ne veut témoigner sans promesse d'anonymat et très peu de gens acceptent, malgré la longue file d'attente. Même après quelques minutes de négociations et de discussions, impossible d'approcher mon micro. Dans ma courte carrière de journaliste, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai déjà fait des micro-trottoirs sur des sujets bien plus clivants que la pauvreté. Mais là, en allant vers les premiers concernés, je me heurte à un mur. Je me rappelle de la peur que j'avais quand j'étais petite qu'on me prenne pour une pauvre. Et je me dis que les gens ici, ils doivent ressentir la même chose. La honte. Pourtant, il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on est dans le besoin. Mais en France, être pauvre, c'est aussi se retrouver face à des préjugés. Des préjugés qui ont un nom depuis 2016. La pauvrophobie. C'est le mouvement ATD Quart Monde qui a mis un mot sur les discriminations subies par les personnes en grande précarité. À l'époque, l'association a lancé un défi aux plumes françaises. Faire rentrer le mot « pauvrophobie » dans leur vocabulaire et leurs écrits pour que les discriminations envers les personnes pauvres gagnent en visibilité.
Donc en fait, le terme « pauvrophobie », il est né d'abord d'un constat.
Paul Maréchal, délégué national d'ATD Quart Monde.
De se rendre compte que, en fait, le mouvement ATD Quart Monde bataille beaucoup avec comme fondement la violation des droits humains. Et on s'est rendu compte que parfois, les droits n'étaient pas respectés, mais pour des raisons qui étaient presque un refus de droit et en fait un rejet, une incompréhension des personnes en situation de grande pauvreté. Et ce sont les personnes elles-mêmes qui nous ont dit mais en fait, on sent ce rejet et cette discrimination, c'est le mot le plus précis, je pense, qu'on puisse utiliser. Cette discrimination pour cause de pauvreté. Et donc, en 2006, le mouvement ATD Quart Monde a commencé à travailler sur cette question de la discrimination pour cause de pauvreté, avec des situations très concrètes qui y sont arrivées, notamment l'expulsion de gens du voyage sédentarisé, où on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte communication, très discriminante, de la part même d'autorités municipales, etc., à la fois parce que c'était des personnes issues de la communauté des gens du voyage, mais particulièrement pour les personnes, par exemple, qui n'étaient pas propriétaires, mais locataires parmi celles-ci, et donc qui étaient vraiment discriminées pour des questions de pauvreté. Et on a eu d'autres situations comme ça, où des gens étaient expulsés d'un musée, etc., parce que, manifestement, ils étaient issus de la grande pauvreté, ou des refus de couverture maladie universelle, par exemple, des médecins qui refusent un rendez-vous à un patient, parce qu'il annonce qu'il a la couverture maladie universelle, ou des enfants interdits d'école parce qu'ils sont inscrits à l'école, leur domicile est inscrit soit à la mairie, soit dans un centre d'hébergement d'urgence, soit dans un hôtel social. Et donc, on était témoins de ça, et avec beaucoup de difficultés pour saisir la justice presque. Et donc, le mouvement a décidé de lancer un vrai travail pour que la discrimination pour cause de pauvreté soit vraiment reconnue par la loi. Et petit à petit, en 2016, finalement, ça a été choisi comme 21e critère. Et à ce moment-là, on a cherché un nom pour cette discrimination pour cause de pauvreté. Et donc, il y a eu un grand travail, une très large consultation avec plein de propositions de noms. Il y a eu une dizaine de noms proposés. Et puis, on a fait voter un peu les gens. Et on a choisi ce nom de pauvrophobie, un petit peu avec cette notion de comme l'homophobie ou la xénophobie, c'est-à-dire un rejet des personnes très pauvres, notamment à cause de la peur, la phobie, mais qui induit ensuite des vrais problèmes de rejet, d'exclusion et de discrimination liés à la pauvreté.
La première fois que j'ai entendu le mot « pauvrophobie », c'était dans un documentaire. Pourquoi nous déteste-t-il, nous les pauvres ? De Sarah Carpentier et Michel Pouzol.
Alors comme ça, il paraît que les pauvres n'aiment pas travailler ? C'est étrange pourtant. J'ai l'impression que je n'ai jamais autant travaillé justement que quand j'étais pauvre.
Dans son film, Michel Pouzol raconte son propre combat contre la misère et démonte les clichés véhiculés sur la pauvreté. C'est vers lui que je me suis tournée pour comprendre ce que ça voulait dire, être pauvre.
Vous passez votre vie à régler des problèmes au quotidien que les autres n'ont pas réglés. Jamais. Je vais vous prendre un exemple que j'ai raconté plein de fois. Donc, il est pas nous dans le cabanon où on était, on avait un seul radiateur, un petit radiateur électrique. Et une nuit, il a claqué. Donc, le matin, quand on s'est réveillé, il faisait 5 degrés dans les chambres, enfin les deux petites chambres, celle que je partage avec ma femme et celle des enfants. Ça représente la température d'un réfrigérateur intérieur. J'ai appris ça après. Donc, autant vous dire qu'on était au frais, c'était en février, c'était très dur. La couette de mon fils avait gelé dans la fenêtre, il voulait pas se lever pour aller à l'école, enfin bon. Donc, je me disais, s'ils se lèvent, ils vont s'habiller, là-bas, ils mangeront à la cantine, ils seront au chaud, on verra bien comment on trouve une solution, on verra bien ce soir, mais bon. Et, bon, ils vont à l'école, etc. Et je me rappelle que j'avais pas rien pour acheter un radiateur, rien. Pas du tout. Alors, je sais pas du tout comment j'ai fait ce jour-là. Je sais pas à qui j'ai emprunté ou si on a eu une aide de la CAF ce jour-là, par hasard. Bon. En tout cas, on avait réussi à trouver une solution pour le radiateur le soir. Mais l'histoire du radiateur, elle s'est pas arrêtée là. C'est qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu besoin d'acheter un radiateur électrique. Et donc, je suis allé, comme tout le monde, au supermarché du coin, voir le radiateur dont j'avais besoin. Et là, j'ai eu un choc parce que le radiateur que j'avais, celui qui avait claqué dans le cabanon à ce moment-là, qui était donc un truc vital, dans le rayon du supermarché, coûtait 25 euros. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule parce que je me suis dit, donc c'est ça. Je n'avais même pas 25 euros à mettre dans quelque chose de vital. Pas quelque chose de... Pas pour aller au cinéma, pas pour aller boire un pot avec des copains, pas pour aller... Pour juste pas crever de froid dans notre cabanon. Je n'avais même pas ces 25 euros. Et là... Ça a fait tilt dans ma tête, parce que je raconte souvent quand je témoigne sur cette histoire, parce que je dis, voilà, c'est ça la pauvreté.
Comme le disait Michel Pouzol, la vie sociale est difficile à maintenir quand on est pauvre. Car tout se paye, même une soirée entre amis. Résultat, la pauvrophobie, c'est bien plus que les préjugés qu'on a sur les pauvres. C'est un système entier, reposant sur le consumérisme et le capitalisme, qui fait que quand on est précaire, on n'a pas accès aux mêmes opportunités que des personnes avec plus de moyens. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont parfois des réactions violentes quand ils voient des personnes pauvres avec des smartphones ou des vêtements de marque. Certains, certaines s'énervent parce que cet argent, il ne devrait pas aller dans le plaisir ou les loisirs. C'est interdit de consommer quand on est pauvre et pourtant, si on ne consomme pas, on est exclu de la société.
Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement une intimation de se foutre à la masse, de participer à la société. On vit dans une société de consommation à laquelle appartenir à la société et participer, c'est consommer.
Denis Colombi, sociologue et auteur de « Où va l'argent des pauvres ? Fantasme politique, réalité sociologique ».
On a des personnes qui ont envie de faire partie de la société, tu as envie de s'intégrer, tu as envie d'avoir une vie comme les autres, qui ne sont pas simplement envie d'être pauvres. Et à un certain moment, oui, ils vont consommer, ils vont acheter, par exemple, des vêtements à la mode, notamment pour les safans, parfois pour les protéger simplement de la pauvreté, de ces conséquences, c'est-à-dire il y a des formes, t'as les collèges, t'as les écoles, t'as les lycées, des formes de harcèlement, de violence vis-à-vis des personnes qui n'ont pas tes vêtements à la mode, qui n'ont pas de smartphone, etc., de moquerie, de choses comme ça. Les parents veulent la protéger, sont prêts à faire tes efforts, t'as ce sens-là. D'autre part, il y a aussi le fait que lorsqu'on est pauvre, on est obligé de se priver de beaucoup de choses. T'as une société qui, au contraire, nous incite à permanence à consommer, à acheter et à avoir tes choses. Et à un moment donné, on peut se dire simplement que, par exemple, se payer un produit dont on n'a pas absolument besoin, finalement, quand on est pauvre, qu'est-ce que ça va chercher à ma situation, que je traque ou que je ne traque pas ? Si de toute façon, même en économie, ça, il faut se raconter que il y a des budgets qui sont particulièrement petits pour les 10% de la population les plus pauvres à France. Une fois qu'on a payé le loyer, le logement, l'électricité, les assurances, etc., les dépenses prêts à cacher, qu'on ne peut pas éviter, et les dépenses essentielles, l'alimentation, des choses comme ça. Il reste à moyenne, et c'est une moyenne, toi, il y a des personnes qui vivent avec moi, il reste à moyenne 80 euros pour les 10% les plus pauvres. 80 euros pour l'épargne, les loisirs, l'habillement et quelques autres éléments comme ça, mais vraiment pas grand-chose. Bon, même à ça, l'hypothèse que vous mettiez de côté ces 80 euros, que vous épargnez l'intégralité de votre reste à vivre, de ce qui reste sur vos revenus, bah, au bout d'un an, au bout de deux ans, vous serez peut-être de quoi payer un mois de loyer supplémentaire, deux mois de loyer supplémentaire, pas grand-chose. Ça ne vous sortira pas de la pauvreté. Donc, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que, bon, ben, finalement, c'est 80 euros, il faut peut-être mieux que je m'achète une paire de baskets qui me fait à vie, qu'il vaut mieux que je m'achète un abonnement pour regarder tes matchs de foot. Il faut peut-être mieux que je me paye un petit resto ou quelque chose comme ça. Ça me permettra de tenir bon face à la pauvreté, face à une situation de privation, face à une situation où je dois sans cesse me dire non à moi-même et parfois dire non à ma famille, à mes safas ou des choses comme ça. Ça me permettra de tenir. Et toi, en fait, c'était Sacha qui sont très rationnels, qui sont le produit de la pauvreté. Les personnes pourraient épargner plus si elles gagnaient plus. Mais comme ce n'est pas le cas, autant essayer d'en profiter comme on peut. Il y a une dimension de privation. Mais dont le niveau de revenu ne va pas suffire à rattraper. Et généralement, si on regarde, on a des personnes qui peuvent avoir des revenus relativement comparables, c'est-à-dire faibles, mais qui ne vont pas être identifiés pour autant par le reste de la société comme pauvres. Certains étudiants, certains secteurs d'activité, la musique, la mode, certains secteurs artistiques, par exemple, ont des revenus qui sont faibles, parfois très faibles, mais ne sont pas identifiés par le reste de la société comme pauvres. Ça nous permet de dire que la pauvreté ne se limite pas à une question de revenus ou une question d'argent, mais aussi une question de position sociale, c'est-à-dire comment on est situé par rapport aux autres. Et notamment, ça passe sur la capacité d'être reconnu, d'être indépendant, d'être autonome et de ne pas se voir contrôlé par autrui, notamment sur son utilisation de l'argent. Un artiste, un intermittent du spectacle, il a peut-être peu d'argent, mais généralement, on ne va pas remettre à cause la façon dont il s'en occupe. Par exemple, on va légitimer l'existence d'un système d'aide pour les intermittents du spectacle et tâtonner leur position dans la société. Ils participent à la création culturelle, etc. Pour d'autres personnes, on ne va pas légitimer de la même façon cette aide-là. On va au contraire leur exiger beaucoup plus de contrôle ou leur refuser carrément toute aide et dire que l'assistanat, il casserte la société et ce genre de choses, parce qu'ils s'occupent une position différente. Donc, c'est cette position par rapport aux autres qui définit la pauvreté. Pour qu'on puisse parler de pauvreté au sens sociologique, là, il faut qu'il y ait des pauvres. Dans une société où tout le monde vivrait avec des conditions de vie comparables, ça existait, t'as des sociétés de chasseurs-cueilleurs. En un sens, tout le monde est pauvre de notre point de vue parce qu'ils ont un mode de vie relativement modeste. Donc, il n'y a ni riche ni pauvre. Tout le monde est, t'as la même situation. C'est à tes sociétés complexes, tes sociétés où tes sociétés hiérarchisées, tu vas apparaître un groupe qui va être appelé pauvre, qui va être identifié comme pauvre. Alors, une fois de chez Tissa, il ne faut pas non plus toper une forme un peu de sociologiste et tirer que finalement, la pauvreté, c'est simplement une étiquette qu'on impose sur les individus et ça n'a rien à voir avec leur situation matérielle. J'ai aussi écrit mon livre pour essayer de rappeler que la pauvreté, c'est une situation matérielle qui impose aux individus une forme de gestion de leur argent. Donc, c'est une estimation très matérielle. C'est tes budgets qui sont petits, c'est aussi tes budgets qui sont incertains. C'est-à-dire, un étudiant qui a peu d'argent à un moment donné de sa vie, s'il sait qu'à un moment donné, il va sortir parce qu'il va avoir son diplôme, il va rentrer sur le marché du travail, il va gagner plus, il n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui a des revenus faibles, mais qui a plus, à tes revenus qui sont incertains, il ne sait pas s'il va les avoir demain et qui ne voit pas t'avenir, qui ne voit pas t'amélioration à l'avenir. Donc, c'est cette situation matérielle de pauvreté, de privation et d'incertitude que j'ai essayé de mettre en avant comme caractéristique de la pauvreté.
Donc, quand on est pauvre, on a du mal à subvenir à ses besoins, à maintenir des relations sociales, à faire tout bonnement partie de la société, et en plus, on est rejeté par les autres quoi qu'on fasse. Qu'on consomme comme eux, qu'on se prive, ou simplement parce qu'on existe. Pour Michel Pouzol, la pauvrophobie est aussi à prendre au pied de la lettre.
La pauvrophobie, c'est la peur du pauvre. C'est la peur de... Oui, c'est la peur du pauvre. Alors, c'est un double phénomène. C'est peur que la pauvreté, ça s'attrape comme une maladie contagieuse. Si ça lui arrive à lui, peut-être ça pourrait nous arriver à nous. Et prenons un peu de distance. Les gens ont peur que ça leur arrive à eux. C'est ça, la pauvrophobie. Puis... Il y a aussi, mais c'est plus minoritaire, je pense, un regard sur l'autre qui est de moins en moins bienveillant dans notre société, quel que soit l'autre. La volonté de vivre ensemble, pour moi, de ma génération, je pense, c'est très altéré. Et donc, c'est les plus fragiles qui en font toujours les frais en premier, toujours. Et parmi les fragiles, hein, les pauvres, ils sont se posent forcément là parce qu'ils n'ont pas de manière de répondre. Moi, je vois toutes les histoires se ressemblent pas et toutes elles se ressemblent en même temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec plein d'associations, j'ai plein d'amis. Enfin, j'essaie de mener le combat avec eux. Et je me bats pour un revenu universel d'existence, par exemple, parce que je sais que au-delà de la lutte contre la pauvreté, parce que ça suffira pas, c'est un outil de recomposition de la société. Donc, je me bats vraiment pour ça, parce que mais sur la grande pauvreté, ça change tout. Enfin, moi, j'explique ça. Si ma femme avait eu, parce que nous, on est pour l'individuation des sommes, 750 € par mois, moi aussi, plus ses enfants à l'époque, eh ben, on n'aurait jamais été dans le cabanon, quoi. On aurait galéré, ça aurait pas changé tout. Ça laisse des marges de manœuvre différentes, de restructuration de la vie, etc. Et donc, on finit pas aussi bas. Vous voyez, donc il y a des solutions. On le sait, on connaît le coût. Mais comme on n'évalue pas le coût de la pauvreté en France, réellement, et je parle pas que du coût économique, du coût humain, parce que c'est un gâchis terrible, enfin, chaque être humain qu'on gâche...
La pauvreté comme une maladie que l'on peut attraper si on est trop proche des pauvres. Ça expliquerait pourquoi certaines préfèrent garder leur distance, fermer les yeux devant la précarité. Mais à trop fermer les yeux, on finit par les oublier, les victimes de la pauvreté. Pourtant, pour lutter contre ces effets, il faut la connaître de près, de l'intérieur, lui consacrer des études et des rapports. Dans le deuxième épisode, on s'intéressera au profil des personnes précaires, s'il y en a un, et à la manière dont tout un tas de caractéristiques mêlées à du déterminisme peuvent mener à la pauvreté.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, Alors dans Le Naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.